Imaginons un instant qu'on doive entrer dans un bâtiment, ou plutôt une tente sacrée, en sachant pertinemment que si on fait un pas de trop, ou si on soulève, je sais pas, le mauvais rideau, la puissance pure et littéralement radioactive du divin risque de nous foudroyer sur place.
Ouais, c'est un concept terrifiant.
Complètement. Et c'est pas de la science-fiction, hein. C'était la réalité quotidienne de la psychologie religieuse dans le monde antique. Parce que on a souvent cette image un peu édulcorée de la religion comme, comme un simple ensemble de règles moraux un peu figées, quoi.
C'est ça, une liste de trucs à faire ou à pas faire.
Exactement. Mais quand on regarde de plus près les textes anciens, on tombe parfois sur des révolutions intellectuelles absolues qui changent la définition même de la nature humaine. Et c'est précisément ce qu'on va aborder dans l'exploration en profondeur d'aujourd'hui.
Et le sujet est vraiment fascinant.
Ah, tu m'étonnes. Notre source, c'est une transcription d'une conférence académique assez incroyable donnée par le docteur David A. de Silva. Et en gros, il analyse les chapitres 9 et 10 d'un texte fondateur du 1er siècle, l'Épître aux Hébreux.
Un texte qui n'est pas le plus facile d'accès d'ailleurs.
C'est clair. Mais la mission de cette analyse d'aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre comment ce document spécifique a radicalement redéfini la mécanique de l'accès à Dieu. On parle du passage d'un système de rituels physiques hyper restrictifs et même terrifiants à une vraie révolution cosmique centrée sur la conscience.
C'est un basculement total.
Bon, décortiquons un peu tout ça, parce qu'il y a un paradoxe saisissant dans cette source. D'un côté, on a une tradition basée sur la distance maximale et la peur mortelle, et de l'autre, ça se métamorphose en une invitation à l'intimité avec le sacré. Comment un texte peut-il justifier un tel virage à 180 degrés ?
Pour comprendre comment l'auteur accomplit ce virage, il faut surtout éviter l'erreur de regarder uniquement la nouvelle solution qu'il propose.
Ah d'accord, donc on regarde quoi alors ?
Le diagnostic. L'analyse du docteur De Silva démontre que la véritable clé se trouve là. En fait, l'auteur antique construit toute son argumentation en disséquant la défaillance structurelle du système précédent.
Il montre pourquoi ça marchait pas, en gros.
Exactement. Ce système archaïque n'arrivait pas à étendre l'accès à la présence divine au-delà d'un seul individu. Et encore, cet individu n'y avait accès que sous des conditions extrêmes.
Et pour faire comprendre cette limitation, la source montre que l'auteur pointe d'abord du doigt la chose la plus évidente, l'architecture.
La géographie du lieu de culte ?
C'est ça. L'espace physique dans lequel l'adorateur entrait.
Ouais, c'est ce que j'appellerais l'architecture de la distance. Parce que si on veut saisir la portée du remède, il faut bien cartographier le problème physique. La source souligne que le texte détaille la disposition du tabernacle terrestre, la fameuse tente du désert des Israélites, quoi.
Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que l'auteur ne s'attarde pas vraiment sur le symbolisme spirituel de chaque petit objet, comme le faisaient d'autres philosophes de son époque. Il se concentre surtout sur les barrières, non ?
Voilà, sur ce filtre architectural. C'était vraiment une structure conçue autour de l'exclusion progressive. Le texte décrit très précisément deux espaces séparés. D'abord, tu as la première tente, le lieu saint.
Ok, et y a quoi là-dedans ?
Eh bien, c'est là qu'on trouve les objets d'usage régulier, tu vois. Le chandelier, la table, le pain de proposition. Jusque-là, c'est un espace de service.
Un peu le bureau de tous les jours pour les prêtres ?
C'est ça. Mais ensuite, caché derrière un second voile, et on parle d'un rideau extrêmement épais, se trouve la deuxième tente, le Saint des Saints.
La zone interdite, quoi.
Exactement. C'est le cœur du réacteur. C'est là que réside l'Arche de l'Alliance, ce fameux coffre recouvert d'or. À l'intérieur, d'après la tradition que l'auteur reprend, il y a une urne en or avec la manne du désert, le bâton d'Aaron, qui avait fleuri, et bien sûr, les tables de la loi.
Et par-dessus, il y a le propitiatoire.
Ouais, le couvercle en or massif, avec les chérubins de gloire sculptés au-dessus. Et l'auteur insiste sur cette disposition pour bien montrer la stricte hiérarchie de l'accès. Le peuple commun, il reste complètement à l'extérieur.
Ils n'ont même pas le droit d'entrer dans la première tente.
Non, ça c'est réservé aux prêtres ordinaires pour leur service quotidien. Mais même eux ont l'interdiction absolue d'aller plus loin. Seul le grand prêtre a le droit de franchir ce fameux second voile. Et il ne peut le faire qu'une seule et unique fois par an.
C'est fou. En lisant ça, j'essayais de visualiser avec un concept moderne. Et en fait, c'est ni plus ni moins qu'un complexe gouvernemental ultra sécurisé.
L'analogie est très bonne, oui.
Tu vois, le citoyen normal, il n'a même pas l'autorisation d'approcher du bâtiment. L'employé de base, le prêtre, il a son badge de niveau 1 pour entrer dans le hall et faire son boulot. Et seul le directeur de l'agence possède le badge de niveau 5 pour ouvrir le coffre-fort central. Et seulement le jour de l'audit annuel.
C'est tout à fait ça, oui.
Mais il y a un détail qui me bloque là-dedans. Si l'objectif fondamental de Dieu dans ces textes, c'est de résider au milieu de son peuple, pourquoi exiger la construction d'une forteresse pareille? Pourquoi empiler les restrictions, les voiles, les menaces de mort, juste pour tenir tout le monde à l'écart?
Eh bien, la réponse se trouve dans la façon dont on concevait la sainteté à l'époque. Dans l'esprit des peuples du Proche-Orient ancien, la sainteté, c'est pas juste une pureté morale abstraite.
C'est pas juste être quelqu'un de bien.
Non, pas du tout. C'est perçu comme une force presque matérielle, une énergie surpuissante, un peu comme, comme une source hautement radioactive dont tu parlais tout à l'heure.
D'accord, donc c'est dangereux physiquement.
Exactement. Ce système de restriction, c'est pas Dieu qui fait son difficile ou qui se montre hostile, c'est un mécanisme de protection vitale. L'humanité est considérée comme impure de nature. Si cette impureté entre en contact direct avec la sainteté pure, la réaction cosmique, bah, c'est la destruction immédiate de l'humain.
Ah ouais, ça pardonne pas.
Donc, les lois rituelles, les voiles, ça forme un bouclier. Une sorte d'aura de tabou pour empêcher une collision fatale. Mais c'est là que l'auteur de l'épître frappe fort. Il dit que cette architecture gère parfaitement la distance de sécurité, d'accord ? Mais elle ne transforme jamais l'adorateur.
Elle le protège, mais elle le répare pas.
Voilà. Elle ne lui permet jamais de s'approcher sans danger.
Ce qui soulève un énorme problème logistique, non ? Parce que si cette architecture est un champ de mine énergétique, qu'est-ce qui se passe quand les gens font des erreurs ? Ils vont inévitablement commettre des fautes.
Oh, bien sûr.
Alors comment ils géraient concrètement les radiations de leurs propres transgressions pour éviter que, bah, que tout le système explose ?
C'est là que la source aborde le rituel qui est censé gérer ça. Le fameux jour des expiations. Oui, le Yom Kippour. C'est décrit dans le chapitre 16 du Lévitique. Et l'auteur de l'épître construit toute son argumentation en opposition directe à ce rituel.
Et c'est là que ça devient véritablement intéressant. Parce que la mécanique de ce rituel est fascinante. La source explique que le grand prêtre doit d'abord offrir un taureau, c'est ça ? Pour nettoyer ses propres fautes.
Oui, histoire de ne pas mourir en entrant.
Voilà. Petite précaution de base. Mais ensuite, on implique deux boucs. Il y en a un qui est sacrifié et son sang est transporté à travers le voile pour être aspergé directement sur le propitiatoire en or, donc à l'intérieur de la zone interdite.
C'est ça.
Mais le deuxième bouc, on ne le tue pas. Le prêtre pose ses mains dessus, confesse les fautes de la nation et on l'envoie se perdre dans le désert vers Azazel. C'est une entité démoniaque, non ?
Oui, un esprit du désert.
Du coup, qu'est-ce qui justifie cette procédure en deux temps ? Et surtout, pourquoi amener du sang à l'intérieur de la zone la plus sacrée ? Ça semble contre-intuitif.
C'est ici que l'analyse du docteur De Silva est géniale. Il fait appel aux travaux du spécialiste Jacob Milgrom, qui a théorisé le concept du miasme cyclique.
Le miasme cyclique ?
Ouais. Pour comprendre le sang à l'intérieur et le bouc à l'extérieur, il faut réaliser que dans cette culture, le péché n'est pas invisible ou abstrait. Chaque infraction produit une sorte de pollution spirituelle, un miasme.
Ok, comme une fumée toxique.
Exactement. Et cette pollution ne se contente pas de tacher la personne coupable. Elle voyage. Elle est magnétiquement attirée par le lieu sacré. Et elle vient s'accumuler physiquement sur le mobilier du tabernacle, et particulièrement sur le propitiatoire, parce que c'est là que la présence divine est la plus forte.
Attends. Donc, si quelqu'un commet une faute à l'autre bout du campement, ça vient littéralement déposer une couche de crasse toxique sur l'or du coffre sacré au centre du sanctuaire ?
C'est exactement l'idée. C'est une accumulation constante de gaz d'échappement spirituel, si on veut. Et si on laisse cette pollution s'accumuler, la présence divine, étouffée par l'impureté, finira par quitter le sanctuaire, laissant le peuple totalement sans protection.
Ah oui, c'est la catastrophe absolue.
Voilà. Et c'est là qu'intervient le sang du premier bouc. Dans le monde antique, le sang représente la force vitale brute. Le grand prêtre ne l'utilise pas pour payer Dieu, mais comme un détergent.
Un détergent ?
Oui, un solvant spirituel ultra puissant. Il s'en sert pour essuyer la crasse cosmique accumulée sur le mobilier.
Mais c'est incroyable, hein ? En fait, on parle d'une équipe de nettoyage spécialisée en déchets dangereux. Le grand prêtre, il enfile sa combinaison de protection, ses vêtements de lin spécifique, il entre dans la zone irradiée avec son produit décontaminant, le sang, et il frotte les surfaces.
C'est exactement ça, un nettoyage toxique.
Et du coup, le deuxième bouc, le bouc émissaire, il sert de camion poubelle. Il transporte les déchets toxiques hors de la ville, dans le désert, pour les rendre à Azazel.
L'analogie fonctionne à 100%.
Mais attends, si on suit cette logique jusqu'au bout, si la communauté a besoin d'envoyer son équipe de décontamination faire le même grand nettoyage toxique chaque année, jour pour jour, est-ce que ça prouve pas que le produit d'entretien est, au fond, totalement inefficace pour traiter la source de la pollution?
C'est la conclusion implacable de l'auteur de l'épître, alors. La répétition cyclique de ce rituel, c'est pas du tout une preuve de sa puissance, c'est l'aveu flagrant de son impuissance.
Ça marche juste pour le bâtiment, quoi.
Voilà, le système désinfecte la tente. Le sang animal agit comme un nettoyant de surface. Ça réinitialise le compteur du bâtiment, mais ça ne s'attaque jamais à l'usine qui produit la pollution, le cœur de l'être humain.
Ah ouais.
L'adorateur est pardonné d'un point de vue légal, mais sa nature reste la même.
Exactement, ce qui garantit qu'il recommencera à polluer le sanctuaire dès le lendemain.
Donc, le mur de la distance dont on parlait au début, il reste infranchissable.
D'accord. Donc, si le nettoyage de surface est un échec sur le long terme, comment l'auteur propose de résoudre ce problème de pollution interne? Parce que la source indique qu'il a dû s'appuyer sur une évolution radicale de la manière de concevoir l'être humain.
C'est vrai, il opère un changement d'angle complet.
Ouais. Il regroupe le sang des taureaux et des boucs avec un autre rituel qui utilise des cendres de génisse, je crois, et il qualifie tout ça de simples règles pour la chair. Il fait une distinction brutale entre la chair et la conscience.
C'est un saut conceptuel majeur. Et la source explique très bien d'où ça vient. Pendant des siècles, la pensée israélite archaïque était profondément holistique.
C'est-à-dire ?
Il n'y avait pas de division nette entre le corps matériel et l'âme. L'humain était un tout indissociable. Donc, pour les premiers Hébreux, purifier la peau d'un individu par un rituel physique, c'était purifier la personne tout entière.
Ok, le corps et l'esprit, c'était le même package.
Voilà. Mais l'auteur de l'Épître, lui, il écrit au 1er siècle. Il a derrière lui des centaines d'années d'influence culturelle hellénistique qui a commencé avec les conquêtes d'Alexandre le Grand.
Ah, l'immersion dans la culture grecque qui a infusé toute la Méditerranée. Mais du coup, est-ce que l'auteur est juste en train de pirater une philosophie grecque à la mode pour modifier la théologie juive antique? C'est pas une façon de tordre un peu le texte d'origine?
Alors non, il ne le tord pas de manière cynique. En fait, il l'interprète à travers les lunettes de son époque. La philosophie grecque avait popularisé un dualisme très fort, la séparation stricte entre le monde matériel, le corps, l'extérieur, et le monde immatériel, l'esprit ou la conscience intérieure.
Et donc, il applique ça au rituel.
Exactement. Il regarde les anciens rituels hébraïques à travers cette lentille dualiste. Là où ses ancêtres voyaient un nettoyage total, lui ne voit qu'un nettoyage de la coquille extérieure. Le sang d'un animal mort, qui est une substance purement matérielle, n'a logiquement aucun pouvoir d'atteindre le domaine immatériel de la conscience humaine, ce qu'on appelle la synédésie en grec.
C'est comme si quelqu'un souffrait d'une hémorragie interne fatale et que le médecin lui prescrivait une douche très vigoureuse avec un savon antibactérien.
C'est une excellente image, oui.
La douche enlève parfaitement la saleté sur la peau, la chair est propre, mais ça règle strictement rien aux problèmes critiques à l'intérieur. Et donc, en utilisant cette division grecque entre corps et esprit, l'auteur dit que seul un acte moral et spirituel peut opérer le patient de l'intérieur.
C'est exactement ça. Et c'est comme ça qu'il présente le sacrifice du Christ. C'est pas un énième rituel matériel de boucherie, c'est un acte de volonté spirituelle absolue qui perce jusqu'à la conscience. Le sacrifice volontaire purifie l'intérieur.
Et une fois que la conscience est lavée, l'usine à pollution est fermée.
Voilà. La barrière inenfranchissable n'a plus de raison d'être, puisque l'humain n'est plus une menace radioactive pour la présence divine.
C'est brillant. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie d'un point de vue légal? Parce que résoudre le problème psychologique ou interne, c'est une chose. Mais l'exploration de la source nous entraîne ensuite dans la cour de justice divine. Comment cette purification intérieure active-t-elle officiellement le libre accès à Dieu?
Eh bien, le texte s'appuie sur une sorte de faille juridique incroyable.
Ouais, la conférence décrypte un jeu de mots sur le terme grec « diathéké ».
C'est une manœuvre rhétorique assez brillante, en effet. Le mot grec « diathéké » a un double sens. Dans le langage théologique classique, ça traduit l'idée d'alliance, un traité bilatéral entre Dieu et l'humanité. Mais dans le langage juridique courant de l'époque, « diathéké » désigne un testament, au sens des dernières volontés, pour transmettre un héritage.
Et l'auteur utilise ce double sens pour expliquer la nécessité absolue de la mort du Christ. La mécanique d'un testament est simple. On ne peut pas hériter de la fortune d'un oncle riche tant que cet oncle est en vie, tu vois.
Bien sûr que non.
Le document existe, l'héritage est promis, mais la mort du testateur est l'événement déclencheur incontournable pour que l'exécution du testament soit activée. Donc, l'auteur affirme que pour déclencher l'héritage promis, il fallait légalement qu'une mort soit actée.
C'est imparable. Et pour asseoir cet argument, l'auteur fait un parallèle direct avec la première alliance, celle conclue au mont Sinaï avec Moïse, dans le chapitre 24 de l'Exode.
Qu'est-ce qu'il a fait Moïse déjà ?
Pour ratifier ce premier traité, Moïse avait organisé un sacrifice animal. Et la source note que l'auteur de l'épître ajoute exprès des détails rituels très spécifiques. L'eau, la laine écarlate, l'hysope.
Pour insister sur le côté hyper matériel et lourd du truc.
Exactement. Et Moïse avait aspergé le sang en déclarant « Ceci est le sang de l'Alliance ». Notre auteur reprend ça et modifie la phrase avec une précision chirurgicale pour dire « Ceci est le sang de la Nouvelle Alliance », ce qui lie directement le traité divin à la mécanique d'un testament activé par la mort.
Juridiquement, c'est parfait. Mais il y a un élément dans la conférence qui m'a semblé un peu contradictoire.
Ah, lequel ?
L'auteur insiste sur le fait que Jésus, après sa mort, pénètre dans le véritable sanctuaire céleste, donc la dimension de Dieu lui-même, et pas dans la tente sur terre qui n'était qu'une maquette.
Oui, le vrai modèle.
Sauf que le texte affirme que ce sanctuaire céleste nécessitait, lui aussi, d'être purifié par un sacrifice supérieur. Mais attends, si le ciel, c'est le domaine de la perfection divine, comment il peut être sale ? Comment le paradis aurait-il pu être pollué par l'humanité au point d'avoir besoin d'un nettoyage ?
Ah, c'est le grand paradoxe apparent du texte. Mais en fait, il se résout super bien si on repense au principe du miasme dont on parlait.
Ah, le miasme monte jusqu'au ciel.
En gros, oui. Si la tente terrestre n'est qu'une copie, une sorte d'hologramme de la réalité céleste, alors la dynamique de la pollution s'y applique aussi, mais à une échelle cosmique. Les rébellions et les crimes de l'humanité ne se sont pas contentés d'encrasser une pauvre tente dans le désert.
Leurs répercussions ont percé les dimensions, quoi.
Exactement. La culpabilité humaine a laissé une empreinte, un registre de dette, un rappel permanent directement devant le trône de Dieu.
La pollution a carrément atteint le quartier général, hein.
Absolument. Et si cette mémoire des fautes persistait dans la dimension divine, la justice cosmique exigerait, tôt ou tard, une condamnation. Donc, l'objectif de l'ascension de Jésus dans ce sanctuaire céleste, c'est pas juste une visite de courtoisie. C'est l'exécution d'une promesse prophétique majeure.
Laquelle ?
Celle tirée du livre de Jérémie. « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ». La purification du sanctuaire céleste, en fait, c'est le nettoyage du grand livre des contes cosmiques. C'est l'effacement total de la mémoire de l'offense.
Waouh ! Ce qui mène à une conclusion visuelle fascinante soulevée par la source. L'auteur termine son argumentation avec une chorégraphie très précise. Il rappelle que, sous l'ancien système, les prêtres lévitiques restaient toujours debout.
Oui, tout le temps.
Ils étaient debout parce que, le flot de pollution étant ininterrompu, leur travail n'était jamais, jamais fini. La chaîne de décontamination ne s'arrêtait jamais. Mais le Christ, après avoir accompli cette purification cosmique, il accomplit le psaume 110. Il s'est assis à la droite de Dieu.
Le fait de s'asseoir dans ce contexte, c'est le sceau définitif d'un travail achevé. Ça veut dire qu'il n'y a plus de sacrifice à offrir. La mécanique de l'expiation est officiellement close.
Le dossier est classé.
Totalement classé. Et du coup, l'auteur oriente le regard vers le futur. La prochaine apparition divine n'aura plus rien à voir avec le traitement du péché. L'objectif sera purement d'apporter le salut, ce qu'on appelle la sotéria en grec, à ceux qui l'attendent. Le paradigme passe de la gestion de la culpabilité passée à la réalisation de la délivrance future.
C'est incroyable. Pour quiconque analyse cette progression, la résonance philosophique est profonde, je trouve. Cette analyse décortique vraiment le besoin obsessionnel et un peu universel de l'humanité de combler le gouffre entre ses propres défaillances et un idéal de perfection.
Oui, c'est une quête humaine fondamentale.
Et en quelques pages, ce texte antique a réussi à conceptualiser le passage d'une peur paralysante, celle de cette énergie foudroyante du sacré, à l'idée vertigineuse d'une conscience réparée. Une conscience qui permet un accès direct et permanent à la transcendance. L'architecture de l'exclusion a littéralement été démantelée par une redéfinition de l'intériorité humaine.
C'est joliment dit. C'est vraiment le triomphe de la conscience purifiée sur la gestion spatiale de la peur. L'humain n'est plus maintenu à l'extérieur, il est rendu capable d'habiter l'intérieur.
Et cette idée de pollution antique s'invite à une réflexion très contemporaine quand on y pense. Les anciens croyaient dur comme fer que leurs actions généraient un miasme cyclique, matériel qui tachait leurs espaces sacrés. Aujourd'hui, bon, il n'y a plus de temps dans le désert ni de rituels sanglants, on est d'accord?
Non, heureusement.
Haine moderne, laisse-t-elle elle aussi un miasme invisible sur les espaces physiques ou numériques que notre société considère comme vitaux, voire sacrés?
C'est une excellente question.
Et si ce brouillard toxique s'accumule inévitablement sur nos institutions, quel genre de rituel ou transformation intérieure moderne pourrait bien espérer nettoyer une telle accumulation avant qu'elle n'étouffe tout le système? C'est une question qu'on va laisser en suspens pour le moment. Pour quiconque nous écoute, merci pour cette plongée fascinante. À la prochaine!